Chapitre 2. Elle s'habilla de bonne heure, en femme habituée aux travaux du matin. Le mouvement qu'elle fit en se levant m'éveilla, et je la guettais entre mes paupières demi-closes. Elle allait, venait, sans se presser, comme étonnée de n'avoir rien à faire. Puis elle se décida à se rapprocher de la table de toilette, et elle vida en une minute tout ce qui restait de parfum dans mes flacons. Elle usa aussi de l'eau, il est vrai, mais peu. Puis, quand elle se fut complètement vêtue, elle se rassit sur sa malle, et un genou dans ses mains, elle demeura songeuse. Je fis alors semblant de l'apercevoir et je dis « Bonjour, Francesca ». Elle grommela, sans paraître plus gracieuse que la veille, « Bonjour ». Je demandai « Avez-vous bien dormi ?» Elle fit oui de la tête, sant répondre, et sauta à terre, je m'avançai pour l'embrasser. Elle me tendit son visage d'un mouvement ennuyé d'enfant qu'on caresse malgré lui. Je la pris alors tendrement dans mes bras. Le vin étant tiré, j'eusse été bien sot de n'en plus boire. Je posai lentement mes lèvres sur ses grands yeux fâchés qu'elle fermait avec ennui sous mes baisers, sur ses joues claires, sur ses lèvres charnues qu'elle détournait. Je lui dis « Vous n'aimez donc pas qu'on vous embrasse ?» Elle répondit « Mika !» Je m'assis sur la malle à côté d'elle et passant mon bras sous le sien « Mika, Mika, Mika pour tout, je ne vous appellerai plus que mademoiselle Mika alors !» Pour la première fois, je pus voir sur sa bouche une ombre de sourire, mais il passa si vite que j'ai bien pu me tromper. « Mais si vous répondez toujours « Mika », je ne serai plus que tenté pour vous plaire. Voyons aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ?» Elle hésita, comme si une apparence de désir eût traversé sa tête, puis elle prononça nonchalamment « Bon, ça m'est égal ce que vous voudrez. »« Eh bien, mademoiselle Mika, nous prendrons une voiture et nous irons nous promener. » Elle murmura « Comme vous voudrez. » Paul nous attendait dans la salle à manger avec la mine ennuyée des tiers dans les affaires d'amour. J'affectais une figure ravie et je lui serrai la main avec une énergie pleine d'aveux triomphants. Il demanda « Mais qu'est-ce que tu comptes faire ?» Je répondis « Ben, nous allons d'abord parcourir un peu la ville, puis nous pourrons prendre une voiture pour voir quelques coins des environs. » Le déjeuner fut silencieux, puis on partit par les rues pour la visite des musées. Je traînais à mon bras Francesca de palais en palais. Nous parcourûmes le palais Spinola, le palais Donia, le palais Marcello d'Urazzo, le palais rouge et le palais blanc. Elle ne regardait rien ou bien levait parfois sur les chefs-d'œuvre son aïla et nonchalant. Paul, exaspéré, nous suivait en grommelant des choses désagréables. Puis une voiture nous promena par la campagne, muets tous les trois. Puis on rentra pour dîner. Et le lendemain, ce fut la même chose, et le lendemain encore. Paul, le troisième jour, me dit « Oh, tu sais, je te lâche. Moi, je ne vais pas rester 3 semaines à te regarder faire l'amour avec cette grue-là. » Je demeurai fort perplexe, fort gêné, car à ma grande surprise, je me désattachais à Francesca d'une façon singulière. L'homme est faible et bête, entraînable pour un rien, et lâche toutes les fois que ses sens sont excités ou domptés. Je tenais à cette fille que je ne connaissais point, à cette fille taciturne et toujours mécontente. J'aimais sa figure grogneuse, la moue de sa bouche, l'ennui de son regard. J'aimais ses gestes fatigués, ses consentements méprisants, jusqu'à l'indifférence de sa caresse. Un lien secret, ce lien mystérieux de l'amour bestial, cette attache secrète de la possession qui ne rassasie pas, me retenait près d'elle. Je le dis à Paul tout franchement. Il me traita d'imbécile, puis me dit « Eh bien, emmène-la !» Mais elle refusa obstinément de quitter Gênes, sans vouloir expliquer pourquoi. J'employai les prières, les raisonnements, les promesses, rien n'y fit. Et je restai. Paul déclara qu'il allait partir tout seul. Il fit même sa malle, mais il resta également. Et 15 jours se passèrent encore. Francesca, toujours silencieuse et d'humeur irritée, vivait à mon côté plutôt qu'avec moi, répondant à toutes mes demandes, à toutes mes propositions par son éternel « Oh, que bifa !» ou par son nom moins éternel « Mika !» Mon ami ne dérageait plus. À toutes ses colères, je répondais « Mais tu peux t'en aller si tu t'ennuies, je ne te retiens pas !» Alors il m'injuriait, m'accablait de reproches, s'écriait « Mais où veux-tu donc que j'aille maintenant ? Nous pouvions disposer les 3 semaines et voilà 15 jours passés. C'est pas à présent que je peux continuer ce voyage. Et puis comme si j'allais partir tout seul pour Venise, Florence et Rome. Mais tu me le paieras, et plus que tu ne penses. On fait pas venir un homme de Paris pour l'enfermer dans un hôtel de Gênes avec une rouleuse italienne. » Je lui disais tranquillement, « Eh bien, retourne à Paris, alors. » Et il vociférait, « Bon, c'est ce que je vais faire, et pas plus tard que demain. » Mais le lendemain, il restait comme la veille, toujours furieux et jurant. On nous connaissait maintenant par les rues, où nous errions du matin au soir, par les rues étroites et sans trottoir de cette ville qui ressemble à un immense labyrinthe de pierre, percé de corridors pareils à des souterrains. Nous allions dans ces passages où souffle de furieux courants d'air, dans ces traverses resserrées entre des murailles si hautes que l'on voit à peine le ciel. Des Français parfois se retournaient, étonnés de reconnaître des compatriotes en compagnie de cette fille ennuyée, aux toilettes voyantes dont l'allure vraiment semblait singulière, déplacée entre nous, compromettante. Elle allait appuyée à mon bras, ne regardant rien. Pourquoi restait-elle avec moi, avec nous, qui paraissions lui donner si peu d'agrément? Qui était-elle? D'où venait-elle? Que faisait-elle? Avait-elle un projet, une idée? Ou bien vivait-elle à l'aventure de rencontres et de hasards? Je cherchais en vain à la comprendre, à la pénétrer, à l'expliquer. Plus je la connaissais, plus elle m'étonnait, m'apparaissait comme une énigme. Certes, elle n'était point une drôlesse faisant profession de l'amour. Elle me paraissait plutôt quelque fille de pauvres gens, séduite, emmenée, puis lâchée et perdue maintenant. Mais que comptait-elle devenir? Qu'attendait-elle? Car elle ne semblait nullement s'effacer, s'efforcer de me conquérir ou de tirer de moi quelque profit bien réel. J'essayais de l'interroger, de lui parler de son enfance, de sa famille, mais ne me répondit pas. Et je demeurais avec elle, le cœur libre et la chair tenaillée, nullement là de la tenir en mes bras, cette femelle hargneuse et superbe, accouplé comme une bête, pris par les sens, ou plutôt séduit, vaincu par une sorte de charme sensuel, un charme jeune, sain, puissant, qui se dégageait d'elle, de sa peau savoureuse, des lignes robustes de son corps. 8 jours encore s'écoulèrent. Le terme de mon voyage approchait, car je devais être rentré à Paris le 11 juillet. Paul, maintenant, prenait à peu près son parti de l'aventure, tout en m'injuriant toujours. Quant à moi, j'inventais des plaisirs, des distractions, des promenades pour amuser ma maîtresse et mon ami. Je me donnais un mal infini. Un jour, je leur proposai une excursion à Santa Margarita, la petite ville charmante au milieu des jardins. Se cache au pied d'une côte qui s'avance au loin dans la mer jusqu'au village de Portofino. Nous suivions tout droit l'admirable route qui court le long de la montagne. Francesca, soudain, me dit « Ah, demain, je ne pourrai pas me promener avec vous. J'irai voir des parents. » Puis elle se tut. Oh, je ne l'interrogeais pas, sûr qu'elle ne me répondrait point. Elle se leva, en effet, le lendemain, de très bonne heure. Puis, comme je restais couché, elle s'assit sur le pied de mon lit et prononça d'un air gêné, contrarié, hésitant. « Si je ne suis pas revenu ce soir, est-ce que vous viendrez me chercher ?» Je répondis, « Mais oui, certainement, où faut-il aller ?» Elle m'expliqua. « Bien, vous irez dans la rue Victor-Emmanuel, puis vous prendrez le passage Falcone et la traverse Saint-Raphaël. Vous entrerez dans la maison du marchand de mobilier, et dans la cour, tout au fond, dans le bâtiment qui est à droite, et vous demanderez « Madame Rondoli, c'est là. » Et elle partit. Je demeurai fort surpris. En me voyant seul, Paul, stupéfait, balbutia « Où donc est Francesca ?» Je lui racontai ce qui venait de se passer. Il s'écria « Eh bien, mon cher, profite de l'occasion et filons. Aussi bien voilà notre temps fini. Deux jours de plus ou de moins ne changent rien. Allez, en route, fais ta malle, en route !» Je refusais. « Mais non, mon cher, je ne puis vraiment lâcher cette fille d'une pareille façon, après être resté près de 3 semaines à Quéquel. Il faut que je lui dise adieu, que je lui fasse accepter quelque chose. Non, non, oh non, je ne me conduirai là comme un saligaud. » Mais il ne voulait rien entendre, il me pressait, me harcelait. Cependant, je ne cédais pas. Je ne sortis point de la journée, attendant le retour de Francesca. Elle ne revint point. Le soir, au dîner, Paul triomphait. « Ah, c'est elle qui t'a lâché, mon cher. Oh, ça, c'est drôle, c'est bien drôle. » J'étais étonné, je l'avoue, et un peu vexé. Il me riait au nez, me raillait. « Oh, le bon bien n'est pas mauvais, d'ailleurs, bien que primitif. Attendez-moi, je reviens. Est-ce que tu vas l'attendre longtemps? Qui sait ? Tu auras peut-être la naïveté d'aller la chercher à l'adresse indiquée. Madame Rondoli, s'il vous plaît. C'est pas ici, monsieur. Oh, je parie que tu as envie d'y aller. » Je protestais. Mais non, mon cher, je t'assure que si elle n'est pas revenue demain matin, je pars à 8 heures par l'express. Je serai resté 24 heures, c'est assez. Ma conscience sera tranquille. Je passais toute la journée dans l'inquiétude. Un peu triste, un peu nerveux. J'avais vraiment au cœur quelque chose pour elle. À minuit, je me couchais, je dormis à peine. J'étais debout à 6 heures. Je réveillai Paul, je fis ma malle, et nous prenions ensemble, 2 heures plus tard, le train pour la France. Or, il arriva que l'année suivante, juste à la même époque, je fus saisi, comme on l'est par une fièvre périodique, d'un nouveau désir de voir l'Italie. Je me décidai tout de suite à entreprendre ce voyage, car la visite de Florence, Venise et Rome fait partie assurément de l'éducation d'un homme bien élevé. Cela donne d'ailleurs dans le monde une multitude de sujets de conversation et permet de débiter des banalités artistiques qui semblent toujours profondes. Je partis seul cette fois, et j'arrivai à Gênes à la même heure que l'année précédente, mais sans aucune aventure de voyage. J'allai coucher au même hôtel et j'eus par hasard la même chambre. Mais à peine entré dans ce lit, voilà que le souvenir de Francesca, qui depuis la veille d'ailleurs flottait vaguement dans ma pensée, me hanta avec une persistance étrange. Connaissez-vous cette obsession d'une femme longtemps après, quand on retourne au lieu où on l'a aimée et possédée? C'est là une des sensations les plus violentes et les plus pénibles que je connaisse. Il semble qu'on va la voir entrer, sourire, ouvrir les bras. Son image fuyante et précise est devant vous, passe, revient et disparaît. Elle vous torture comme un cauchemar, vous tient, vous emplit le cœur, vous émeut les sens par sa présence irréelle. L'œil l'aperçoit, l'odeur de son parfum vous poursuit, on a sur les lèvres le goût de ses baisers et la caresse de sa chair sur la peau. On est seul cependant, on le sait, on souffre du trouble singulier de ce fantôme évoqué. Et une tristesse lourde, navrante, vous enveloppe. Il semble qu'on vient d'être abandonné pour toujours. Tous les objets prennent une signification désolante, jettent à l'âme, au cœur, une impression horrible d'isolement, de délaissement. Oh, ne revoyez jamais la ville, la maison, la chambre, le bois, le jardin, le bar, où vous avez tenu dans vos bras une femme aimée. Enfin, pendant toute la nuit, je fus poursuivi par le souvenir de Francesca, et peu à peu, le désir de la revoir entrait en moi, un désir confus d'abord, puis plus vif, plus aigu, brûlant. Et je me décidai à passer à Gênes la journée du lendemain, pour tâcher de la retrouver. Si je n'y parvenais point, je prendrais le train du soir. Donc, le matin venu, je me mis à sa recherche. Je me rappelais parfaitement le renseignement qu'elle m'avait donné en me quittant. Rue Victor Emmanuel, passage Falcone, traverse Saint-Raphaël, maison du marchand de mobilier, et au fond de la cour, le bâtiment à droite. Je trouvais tout cela non sans peine et je frappai à la porte d'une sorte de pavillon délabré. Une grosse femme vint ouvrir, qui avait dû être fort belle et qui n'était plus que fort sale. Trop grasse, elle gardait cependant une majesté de ligne remarquable. Ses cheveux dépeignés tombaient par mèches sur son front et sur ses épaules et on voyait flotter dans une vaste robe de chambre criblé de taches, tout son gros corps ballottant. Elle avait au cou un énorme collier doré et aux deux poignets de superbes bracelets en filigrane de chêne. Elle demanda d'un air hostile « Qu'est-ce que vous désirez ?» Je répondis « N'est-ce pas ici que demeure Mademoiselle Francesca Romoli ?»« Qu'est-ce que vous lui voulez ?» Bien, j'ai eu le plaisir de la rencontrer l'année dernière et j'aurais désiré la revoir. La vieille femme me fouillait de son œil méfiant. Dites-moi où vous l'avez rencontrée. Mais ici même, à Gênes. Comment vous appelez-vous? J'hésitais une seconde, puis je dis mon nom. Je l'avais à peine prononcé que l'Italienne leva les bras comme pour m'embrasser. « Oh, vous êtes le Français, que je suis contente de vous voir, que je suis contente. Mais comme vous m'avez fait de la peine, la pauvre enfant, elle vous a attendu de un mois, monsieur, oui, un mois. Oh, le premier jour, elle croyait que vous alliez venir la chercher, elle voulait voir si vous l'aimiez. Si vous saviez comme elle a pleuré quand elle a compris que vous ne viendriez pas. Oh oui, monsieur, elle a pleuré toutes ses larmes. Et puis elle a été à l'hôtel, vous étiez parti. Alors elle a cru que vous faisiez votre voyage en Italie et que vous alliez encore passer par Gênes et que vous la chercheriez en retournant puisqu'elle n'avait pas voulu aller avec vous. Elle a attendu, oui, monsieur, plus d'un mois. Oh, elle était bien triste, elle est bien triste. Moi, je suis sa mère. Je me sentis vraiment un peu déconcerté. Je repris cependant mon assurance et je demandai « Est-ce qu'elle est ici en ce moment ?»« Non, monsieur, elle est à Paris, avec un peintre ou un garçon charmant qui l'aime, monsieur, qui l'aime d'un grand amour et qui lui donne tout ce qu'elle veut. de les regarder, ce qu'elle m'envoie à moi, sa mère. C'est gentil, n'est-ce pas ? Et elle me montrait, avec une animation toute méridionale, les gros bracelets de ses bras et le lourd collier de son cou. Elle reprit. Ben, « J'ai aussi deux boucles d'oreilles avec des pierres et une robe de soie et des bagues. Ben, oh, je les porte pas le matin, je les mets seulement sur le tantôt, quand je m'habille en toilette. Oh, elle est très heureuse, monsieur, très heureuse. Comme elle sera contente quand je lui écrirai que vous êtes venu. Mais oh, entrez, monsieur, asseyez-vous, vous prendrez bien quelque chose, entrez. » Je refusais, voulant partir maintenant par le premier train. Mais elle m'avait saisi le bras et m'attirait en répétant « Mais entrez donc, monsieur, il faut que je lui dise que vous êtes venu chez nous. » Et je pénétrai dans une petite salle assez obscure, meublée d'une table et de quelques chaises. Elle reprit « Oh, elle est très heureuse à présent, très heureuse. Quand vous l'avez rencontrée dans le chemin de fer, elle avait un gros chagrin. Son bon ami l'avait quittée à Marseille, et elle revenait, la pauvre enfant. Oh, elle vous a bien aimé tout de suite, mais elle était encore un peu triste, vous comprenez. Maintenant, rien lui manque, elle m'écrit tout ce qu'elle fait. Il s'appelle Monsieur Belbin. On dit que c'est un grand peintre chez vous. Il l'a rencontré en passant ici, dans la rue. Oui, monsieur, dans la rue. Et il l'a aimé tout de suite. Mais vous m'aurez bien un petit verre de sirop, il est très beau. Hein. Est-ce que vous êtes seul cette année ? Je répondis, oui, oui, je suis seul. Je me sentais gagné maintenant par une envie de rire qui grandissait, mon premier désappointement s'envolant, devant les déclarations de Mme Rondoli, mère, et il me fallut boire un verre de sirop. Elle continuait. Comment vous êtes tout seul ? Oh, je suis fâché, alors que Francesca ne soit plus ici, et vous aurez tenu compagnie le temps que vous allez rester dans la ville. C'est pas gai de se promener tout seul, elle regrettera bien de son côté. Puis, comme je me levais, elle s'écria, ben, si vous voulez que Carlotta aille avec vous, elle connaît très bien des promenades, c'est mon autre fille, monsieur, la seconde. Elle prit sans doute ma stupéfaction pour un consentement, et se précipitant sur la porte intérieure, elle l'ouvrit et cria, dans le noir d'un escalier invisible, « Carlotta, Carlotta, descends vite, viens tout de suite, ma fille chérie !» Je voulus protester, elle ne le permit pas. « Non, 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 elle vous tiendra compagnie, elle est très douce et bien plus gaie que l'autre, c'est une bonne fille, une très bonne fille que j'aime beaucoup. » J'entendais sur les marches un bruit de semelles, de savates, et une grande fille parut, brune, mince et jolie, mais dépeignée aussi, et laissant deviner, sous une vieille robe de sa mère, son corps jeune et svelte. Madame Rondoli la mit aussitôt au courant de ma situation. « C'est le Français de Francesca, celui de l'an dernier, tu sais bien. » Il venait la chercher, il est tout seul, ce pauvre monsieur. Alors je lui ai dit que tu iras avec lui pour lui tenir compagnie. Carlotta me regardait de ses beaux yeux bruns, et elle murmura en se mettant à sourire, « Oh, mais s'il veut, je veux bien, moi. Comment aurais-je pu refuser ?» Je déclarai, « Mais certainement que je veux bien. » Alors Madame Rondoli la poussa dehors. « Va te billet bien vite, allez, tu mettras ta robe bleue et ton chapeau à fleurs, dépêche-toi. » Dès que sa fille fut sortie, elle m'expliqua. Ben, « J'en ai encore deux autres, mais plus petites. Oh, ça coûte cher, allez, d'élever quatre enfants. Heureusement que l'aîné est tiré d'affaire à présent. » Et puis elle me parla de sa vie, de son mari qui était mort, employé au chemin de fer, et de toutes les qualités de sa seconde fille, Carlotta. Celle-ci revint, vêtue dans le goût de l'aînée, d'une robe voyante et singulière. Sa mère l'examina de la tête aux pieds, la jugea bien à son gré, et nous dit « Allez maintenant, mes enfants, allez !» Puis s'adressant à sa fille, « Surtout, rentre pas plus tard que 10 heures ce soir. Tu sais que la porte est fermée. » Et Carlotta répondit, « On ne craint rien, maman. » Elle prit mon bras, et me voilà errant avec elle par les rues, comme avec sa sœur l'année d'avant. Je revins à l'hôtel pour déjeuner, puis j'emmenai ma nouvelle amie à Santa Margarita, refaisant la dernière promenade que j'avais faite avec Francesca. Et le soir, elle ne rentra pas, bien que la porte dût être fermée après 10 heures. Et pendant les 15 jours dont je pouvais disposer, je promenais Carlotta dans les environs de Gênes. Bien, elle ne me fit pas regretter l'autre. Je la quittais tout en larmes le matin de mon départ, en la laissant avec un souvenir pour elle, 4 bracelets pour sa mère. Et je compte un de ces jours retourner voir l'Italie, tout en songeant avec une certaine inquiétude mêlée d'espoir que Madame Rondoli possède encore 2 filles.